J'écris ce livre parce que j'ai la force aujourd'hui de m'arrêter sur ce qui me
traverse. J'écris ce livre parce que j'ai la force aujourd'hui de m'arrêter sur ce qui me traverse et parfois m'envahit. Parce que je veux savoir ce que je transmets. Parce que je veux cesser d'avoir peur qu'il nous arrive quelque chose, comme si nous vivions sous l'emprise d'une malédiction. Pouvoir profiter de ma chance, de mon énergie, de ma joie, sans penser que quelque chose de terrible va nous anéantir et que la douleur, toujours, nous attendra dans l'ombre.
Rien ne s'oppose à la nuit.
Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. 9e épisode.
Approcher Lucille, avec toutes les précautions du monde ou à bras raccourcis, c'est aussi approcher les autres, les vivants, au risque d'ailleurs de m'en écarter. À ma sœur, j'ai demandé comme aux autres de me parler de Lucille, de me prêter ses souvenirs. Manon m'a raconté ce matin de janvier, la première bouffée délirante de notre mère, et puis l'impossibilité dans laquelle elle avait été pendant plusieurs mois de s'abandonner au sommeil en présence de Lucille. Ces nuits de petite fille hantée par la peur de voir sa mère surgir dans sa chambre pour finir ce qu'elle avait commencé. Cela m'a bouleversée. Manon m'a raconté, de son point de vue, les années qui ont suivi, les spectatrices muettes que nous sommes devenues, incapables de mettre fin à la douleur de Lucille. Manon m'a raconté beaucoup d'autres choses qui nourrissent ce livre et que j'espère ne pas trahir. Avant que Lucille ne revienne une nouvelle fois au délire, nous avons connu toutes les trois une période de douceur, une étrange parenthèse, un avant-goût de paix. Mais une nouvelle fois, rattrapée par le ressac de sa douleur et de sa culpabilité, Lucille a fait voler en éclats les prémices d'un après, les indices d'une reconstruction possible. Ma mère avait recommencé à boire. Manon a tenté de lui en parler.
Maman, je voudrais t'aider. Dis-moi ce que je peux faire.
Écoute Manon, j'ai 40 ans, pas d'amis, pas d'amants, un travail qui m'ennuie à mourir. Il est donc normal, et même souhaitable, que je boive un peu de temps en temps. Et que je me réfugie dans l'imaginaire.
En fait d'imaginaire, Lucille ressasse les intentions malveillantes qu'elle prête aux rares personnes qui l'entourent, se prêtant victime d'espionnage et de diverses tentatives d'escroquerie, sans parler du gaz qu'elle trouve ouvert chez elle à plusieurs reprises. Lucille, ainsi que 17 autres salariés, vient d'être licenciée pour motif économique par l'éditeur pour lequel elle travaille depuis quelques années. L'angoisse la submerge. En l'espace de quelques jours, ma mère devient injoignable. J'obtiens que nous nous retrouvions au café.
Ok, maman, j'essaie de comprendre. Donc, tu contrôles l'ensemble du système micro-informatique d'Armand Collin, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, ma vie entière est maintenant sous l'emprise de la logique informatique. En fait, il me suffit d'appuyer sur quelques boutons de l'ordinateur pour déclencher différents événements. Il arrive que je me trompe. Dans ce cas, les lumières s'allument et clignotent.
Maman, ne t'énerve pas si je te demande...
Oui,
si...
j'ai arrêté mes médicaments. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Hein. J'en peux plus de vivre comme un légume. Je ne veux plus de cette vie-là. Je veux vivre les choses, les ressentir, être vivante.
Par un hasard qui n'en était sans doute pas un, je fus victime au même moment d'une infection monumentale qui, en l'espace de quelques semaines, me conduisit en ambulance, un matin d'octobre, aux urgences de l'hôpital Boussicault.
Allez, vas-y, là. Fais-le moi ton cirque, les urgences, la perfusion.
Fous-moi la paix, maman, oublie-moi.
Ça va? Ça t'arrange, hein, la maladie?
Oui.
Clouée sur mon lit d'hôpital,
hein, profite à qui, tout ça,
reliée hein à une imposante perfusion malade d'antibiotiques,
ah, oui,
face à ma mère qui voyait rouge et tournait comme un fauve dans la chambre, la situation m'est apparue soudain sous son jour le plus pathétique et au point où nous en étions arrivés, le plus comique. À garde, les yeux exorbités par le manque de sommeil, une cartouche de cigarette coincée sous le bras, ma mère repartit comme elle était venue, après m'avoir gratifié d'un connasse assassin. Ma mère réapparut plusieurs fois, de plus en plus agitée.
Coucou chérie, regarde. Je t'ai apporté plein de trucs. Je voulais absolument que tu vois ça.
Regarde, tu peux jouer aux dames. Toute seule, c'est bien aussi.
Attends. Et attention, maman, t'en es partout, là.
Ah, et ça... Oh, j'ai oublié les deux.
Elle évoquait les nombreux cadeaux qu'elle allait bientôt pouvoir nous offrir, grâce à ses indemnités de licenciement et d'autres revenus mystérieux.
C'est trop mignon. Non, regarde, c'est très joli. Si tu le caresses bien, il couine. Tu
vois? Allô, Violette, c'est moi. Maman va de plus en plus mal.
Écoute, ma chérie...
Justine, je viens d'avoir Violette. Maman fait une rechute.
Moi aussi, j'ai ma vie.
Mes problèmes.
Mes chagrins.
Je n'ai aucune envie de signer l'internement
de ma sœur.
J'en peux plus. J'ai 21 ans. Je suis anéantie de fatigue. Je refuse de porter ça toute seule.
Ok, ok.
Calme-toi.
On va s'en occuper.
Le seul endroit possible pour lui mettre la main dessus, c'est ta chambre d'hôpital.
Pas qu'il y a plus reposant avant ton opération.
Nous n'avons pas le choix.
Lucille va forcément revenir.
Le lendemain,
maman,
ma mère a débarqué dans ma chambre à 10h du matin, plus livide que jamais, le corps secoué de tremblements.
À plantes, le bonsaï de Manon, des vieilles peluches et un jeu de cartes très spécial. Hein. Attention, elles permettent de lire l'avenir. Je viens de toucher le gros lot, 30 000 francs, net. J'ai réussi à faire exploser la centrale Macintosh. Bon, allez, je te laisse, hein. J'ai plein de choses à faire, là, je reviendrai un peu plus tard. Ouh.
Allô, Justine, appelle Violette. Maman vient de sortir de ma chambre. Elle revient cet après-midi. Ok. Je vous attends.
Une fois de plus, j'étais coupable de haute trahison. En fin de journée, alors que l'état de tension dans lequel nous étions n'avait cessé d'augmenter, deux amis de ma classe surgirent à l'improviste dans ma chambre, suivis de Barnabé, un garçon avec lequel j'espérais un prochain rapprochement.
Bah, c'est gentil de venir me voir. Mais comment dire, c'est pas le meilleur moment là.
Ouais.
Elle est fatiguée. Mais vous pouvez peut-être revenir un autre jour.
Ma mère apparut comme une furie, les bras chargés de posters et de plans.
Cassez-vous tous et que ça saute.
Oh. Allez, maman.
Allez, calme. C'est dans un hôpital ici. Salope.
En l'espace de quelques minutes, je me suis retrouvée dans le couloir, attachée à mon chariot de perfusion, tandis que dans la chambre, Lucille avait sauté sur Justine pour la mordre et la griffer et la traitait de tous les noms. L'une de mes amies a couru jusqu'à l'accueil. La porte s'est refermée. Je suis restée dans le couloir, pliée en deux de douleur et d'angoisse, le cœur affolé, aux côtés de Barnabé, qui a semblé soudain prendre conscience que je n'étais peut-être pas la jeune fille de bonne famille qu'il espérait avoir rencontrée. Alertée par le bruit, les infirmières sont venues en renfort. La porte s'est ouverte sur Lucille qui était à terre et semblait s'y trouver bien. Pendant quelques secondes, je n'ai perçu plus rien de l'affolement qui m'entourait. Allongée sur le sol, étrangère soudain à l'agitation qu'elle avait provoquée, ma mère me souriait. Un sourire étrange, infiniment doux et désarmé. Le temps s'était arrêté.
Ne laissez pas ma sœur toute seule, s'il vous plaît.
Dans le couloir, je vis la pâleur du visage de Justine, défait par la tristesse. Je compris combien il était difficile pour elle d'être là, d'endosser ce rôle, cette responsabilité, et avec quelle violence ce moment s'ajoutait aux douleurs passées. Lucille finit par accepter de descendre aux urgences, où l'ambulance qui devait la conduire à Sainte-Anne était arrivée. Barnabé s'enfuit, dépassé par les événements. Justine et Violette ont suivi l'ambulance pour être présentes à l'arrivée de Lucille. Et puis mes amis ont dû rentrer chez elles. Le moment le plus difficile a été ce passage à la solitude. Elle m'était pourtant nécessaire pour pleurer. Le lendemain matin,
oui, entrez.
À la première heure, une femme à la voix fluette a frappé à la porte de ma chambre.
Bonjour, je suis la psychologue du service. Alors, il paraît qu'il y a eu un petit problème avec votre maman hier soir. Vous souhaitez en parler?
Non, non, merci. Tout va bien.
D'accord. N'hésitez pas.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, madame.
Je la jouais comme ma tante Lisbeth. Question d'habitude. Les fictions de Lucille, même si j'en ai consigné les principaux motifs, la volonté de puissance et de contrôle, les aptitudes surnaturelles, l'argent qui coule à flot, la possibilité de nous couvrir de cadeaux, me restent impénétrables. C'est cela aussi, le trouble mental, tel que la sœur de ma grand-mère, Barbara, le décrivait dans son roman. Ce jaillissement en geyser d'une protestation intérieure timide ou longtemps enfouie, l'expression soudaine et brutale d'un refus de se laisser dorénavant manipuler ou détruire, qui se traduisent par un décalage de ton, une hauteur de son, insupportable à des oreilles normales. J'espérais que l'écriture me donnerait à entendre ce qui m'avait échappé, ces ultrasons indéchiffrables pour des oreilles normales. Je ne suis pas sûre que l'écriture me permette d'aller au-delà du constat d'échec. La difficulté que j'éprouve à raconter Lucille n'est pas si éloignée du désarroi que nous éprouvions, enfants ou adolescentes, lorsqu'elle disparaissait. Au cours de son dernier séjour à Sainte-Anne, au milieu de ses rêves anéantis et des vestiges du délire qui finit par céder, Lucille fait part au docteur G de son épuisement.
Écoutez, je ne veux pas retourner au silence, au vide d'un corps amputé de ses sensations. Il est temps de mettre fin au cycle, à la répétition. À choisir, je préfère mourir.
Le docteur G entend la voix presque éteinte de Lucille et modifie radicalement son traitement. Ainsi, après 10 années de marécage, ma mère est revenue de loin, de tout. Elle a laissé derrière elle ses heures parmi les ombres.
Ça a été un combat.
Une longue et progressive remontée vers la lumière.
Un incroyable tour de force.
Une spectaculaire leçon de vie.
Une renaissance.
Lucille voit le docteur G une fois par semaine. Elle peut l'appeler lorsqu'elle se sent vaciller.
Lucille se prend de passion pour les plantes.
Elle réalise des boutures.
Taille des pieds.
Surveille des bourgeons.
Habille ses fenêtres de feuillage exubérant et de fleurs en cascade.
Lucille porte de nouveaux vêtements. Retourne chez le coiffeur.
Puis, peu à peu, avec précaution, ma mère élargit sa marge de manœuvre et son périmètre d'action.
Lucille recommence à voir ses amis, à sortir avec eux.
Elle achète des rouges à lèvres qu'elle met plusieurs fois par jour.
Elle se remet à porter les talons.
Ma mère a arpenté Paris avec ou sans nous.
Lucille recommence à lire et à écrire.
Elle raconte des histoires, des anecdotes, des blagues.
Elle émet des jugements à l'emporte-pièce.
Elle éclate de rire.
Ma mère a assisté, comme nous tous, au spectaculaire grand écart que ma grand-mère Liane a exécuté, moulée dans un juste corps vert, pour l'anniversaire de ses 70 ans.
Lucille part en Inde avec une amie.
Ses voyages la perturbent au point qu'elle manque de rechuter.
Lucille tombe amoureuse d'un pharmacien de son quartier qu'elle tente de séduire sans succès.
Lucille a quelques amants au gré de ses pérégrinations.
Cette fois, son traitement ne dresse pas autour d'elle l'incontournable forteresse sur ordonnance dans laquelle elle a été si longtemps murée. Peut-être était-ce une question de lithium et de molécules. Mais au-delà de la chimie, j'aime à croire que quelque chose en elle avait ressurgi, était entré en résistance. Quelques années plus tard, des rumeurs évoquent d'importantes réductions de personnel dans le groupe de communication pour lequel Lucille travaille. Cette fois, Lucille prend les devants, passe une équivalence du baccalauréat qu'elle obtient sans difficulté et s'inscrit au concours de plusieurs écoles d'assistantes sociales. À la rentrée suivante, ma mère glisse cahiers et stylos dans un sac d'étudiante et entre à l'école normale sociale de Torcy. Nous sommes époustouflés. Lucille commence sa carrière d'assistante sociale à l'hôpital Avicenne de Bobigny, au sein de l'unité SIDA. À la veille de l'été 2003, Lucille voit arriver dans son service une jeune femme de 34 ans, toxicomane, malade du SIDA, victime de maltraitance et, selon toute vraisemblance, contrainte à la prostitution. Elle avait été retrouvée inanimée, coincée derrière un réfrigérateur, couverte de brûlures de cigarettes. Quelques semaines plus tard, Lucille décide qu'il est temps de changer de service, de trouver un poste moins lourd, moins exposé. Elle postule à l'hôpital Lariboisière où elle est engagée. L'image de cette jeune femme continue pourtant de la hanter. L'été caniculaire fait le reste. À cause de la chaleur, Lucille doit diminuer son traitement et en quelques semaines est rattrapée par des motifs paranoïaques. Après presque 15 années stables, Lucille rechute.
Écoutez, mademoiselle, je vais être franche avec vous. Soit je remets votre mère sous camisole chimique, auquel cas elle sera incapable de travailler. soit je lui donne une chance de mener une vie normale, et vous devez accepter qu'elle exprime quelques idées irrationnelles ou suspicieuses. Comme beaucoup de gens qui ne sont pas considérés comme malades.
Lucille avait des lubies, des phobies, des coups de gueule, des coups de cafard, aimait prononcer des bizarreries auxquelles elle-même croyait plus ou moins, passait du coq à l'âne et de l'âne au coq, se mettait martel en tête, lançait des piques, frôlait les limites, jouait avec le feu. Lucille aimait naviguer à contre-courant, mettre les pieds dans le plat, se savait sous surveillance, défiait parfois notre regard, s'amusait à nous alarmer et revendiquait sa singularité. Il nous fallut apprendre à lui faire confiance, à ne plus avoir peur de la rechute. En tant qu'assistante sociale, ce sont ses plus belles années. Mis à part Recherche esthétique, qui date de 1978 et s'achève par l'affirmation de l'inceste, et Le journal du vide, rédigé à la demande du docteur D, qui scande ses années de torpeur, la plupart des textes écrits par ma mère datent des années 90, dans ce moment qui marque en quelque sorte le début de sa renaissance. C'est au cours de cette période que ma mère a écrit le récit de son premier internement, ainsi qu'un texte intitulé « No Romantica », consacré à Graham, son clochard violoniste, après qu'elle eut appris que ce dernier venait d'être retrouvé mort, assassiné dans son squat. À ce texte s'ajoute un autre, qui n'existe qu'en un seul exemplaire.
Jamais plus l'enfance ne fut harmonie.
Elle y évoque la mort accidentelle de son frère Antonin, l'absence totale de souvenirs qui précède cette perte, et la douleur qui s'ensuit. Jamais plus l'enfance ne fut harmonie. Au fil des pages, Lucille évoque sa mère devenue inaccessible, ses années d'enfant vedette, les séances de photos auxquelles Liane ne l'accompagne plus, les taxis qu'elle prend seule pour y aller.
J'étais une enfant très belle et ça m'a coûté cher.
Les textes de Lucille sont confus. Ils n'obéissent à aucune chronologie, aucune logique, se construisent par fragments, se terminent comme ils ont commencé, avec brutalité. L'idée de la mort y est toujours présente.
L'ennui n'est jamais passager. Il y a bien un remède à cet ennui, mais il est radical et désagréable pour les autres.
L'ennui n'est jamais passager.
Certains vivront, d'autres mourront.
Il y a bien un remède à cet ennui,
j'aimerais avoir
mais il est radical et désagréable pour les autres. Certains vieilliront, d'autres mourront. J'aimerais avoir une maladie incurable et mourir jeune. L'année dernière, je n'ai pas eu un rhume.
Pourtant, dans certains de ces fragments, ma mère se montre sous un jour plus fantaisiste.
Journal d'une entreprise de séduction sur la personne d'un pharmacien du 15e arrondissement.
Elle y relate les différents prétextes plus ou moins plausibles qui lui permettent d'entrer en contact avec le pharmacien de son quartier.
5 minutes de bonheur pour 130. Détourner un pharmacien juif du droit chemin sous l'œil de sa femme. Il ne faut pas que je me cache que cela va être difficile.
Parmi les fragments laissés par ma mère, je me suis arrêtée sur un texte sur mon fils encore bébé, un conte humoristique écrit à l'intention de ma fille, un paragraphe abasourdi sur le suicide de Pierre Bérégovoy, un texte inspiré sur les mains d'Edgar, l'aquarelliste, quelques poèmes d'une grande beauté. Et puis, sur une feuille volante, cette phrase qui me fait sourire.
À Pierremont, je dis non.
Je n'avais jamais pris conscience à quel point l'écriture avait été présente dans la vie de Lucille, et encore moins combien l'avait occupé le désir de publier.
1993, fragment d'autobiographie. Je pense que c'est un titre déjà utilisé, mais qui conviendrait bien pour mes textes. Je vais les présenter de nouveau à quelques éditeurs pas encore déterminés en y ajoutant recherche esthétique. Je n'arrive pas à me replonger dans une optique littéraire. Rien ne me tente comme sujet. Manon va m'apporter la petite machine électronique. Je vais reprendre tous mes textes un par un, me replonger dedans et puis les taper avec une pagination continue.
Dans les pages d'un cahier, j'ai trouvé une lettre de refus provenant des éditions de Minuit. Quelques années plus tard, Lucile a écrit un texte sur Nebo, un de ses amants, sous le pseudonyme de Lucile Poirier. Ma mère, en quelque sorte, a choisi elle-même son nom de personnage, Lucile Poirier. Ai-je pris à ma charge, sans le savoir, le désir de Lucile? Je ne sais pas. L'écriture de Lucile est infiniment plus obscure, plus trouble et subversive que la mienne. J'admire son courage et les fulgurances de sa poésie. Il m'est parfois venu à l'idée que si Lucile n'avait pas été malade, elle aurait écrit davantage et peut-être publié ses textes.
C'était « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. 9e épisode. Avec Elsa Le Poivre et Luce Mouchel, Françoise Gillard, Suzanne Aubert, Marie-Céline Tuvache, Françoise-Henri Cumère, Sophie Doll, Marianne Épin. Et les voix de Bernadette Le Sachet, Albert Delpy, Sandy Ouvrier, Thomas Dahl, Félix Pruvot, Sophie Bezard, Leslie Menahem, Élodie Menon, Samuel Charles, Marie-Pierre Chex, Valérie Corrier-Sibiril, Jean-Charles Riesnikoff, Colette Marie et Ombline de la Tessonnière. Bruitage, Sophie Bissens, assistée d'Élodie Fiat. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Prise de son, montage et mixage, Catherine Dérété et Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.